Amis auditeurs, auditrices de Vibration FM, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance et la joie d'accueillir Jean-Marie Lebrun. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Avec vous, nous allons aborder aujourd'hui la question un peu curieuse peut-être du cimetière protestant, parce que vous en êtes le président. Est-ce qu'avant de rentrer dans cette question, vous pourriez déjà vous présenter à nos auditeurs? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous?
Alors au départ, je ne suis ni croque-mort, ni protestant, ni montpelliérain. Donc voilà, je suis né à Reims, en Champagne, où j'ai fait mes études secondaires. Ensuite, j'ai travaillé dans la librairie et dans l'édition pendant une petite dizaine d'années. Puis j'ai monté une entreprise de menuiserie, donc je suis à la fois, je pense, un peu intellectuel, mais aussi manuel. Voilà, j'ai voulu joindre les deux vocations. Ensuite, je me suis tourné vers le journalisme, donc je retrouvais à peu près mon début de carrière avec l'écriture et les livres et le papier. Et pour ma retraite, j'avais prévu de venir à Montpellier, une ville dont j'avais entendu parler dans les années 70, dont le développement m'intéressait, et puis le Languedoc m'intéressait aussi pour son histoire, pour ses coopératives, pour les révoltes vigneronnes, enfin beaucoup de choses qui me prenaient vraiment au trip des gens vers qui je voulais aller vraiment. Donc voilà, alors ensuite j'ai dit que je n'étais pas protestant, ben pas protestant au départ, puisque j'étais d'un milieu catholique très strict, j'en ai un petit peu bavé dans le catholicisme de mon enfance. Et j'ai découvert à l'adolescence qu'une moitié de ma famille était protestante. Et on me l'avait caché, je ne le savais pas. Et petit à petit, j'ai voulu savoir. Donc en fait, c'était peut-être un retour aux racines, une envie de racines ou quelque chose. Et puis, bon, à l'occasion d'une rencontre d'un pasteur, je le rencontrais en cachette parce que j'avais peur et je ne voulais pas que ma famille le sache. Et bien petit à petit, des liens se sont renoués. J'ai redécouvert cette pratique religieuse et ce genre de foi qui m'allait beaucoup mieux viscéralement que ce que j'avais eu un peu à forte dose pendant ma petite enfance. Donc voilà, petit à petit, j'ai viré ma cutie et j'en ai été très content. Et c'est cette foi et cet engagement qui nourrissent ma vie depuis ce moment-là. Alors au niveau simplement état civil, donc j'ai une épouse, Martine, que j'adore naturellement. C'est ma seconde épouse. Donc là aussi, il y a eu un échec dans la vie. Pour elle également, elle était divorcée aussi. Et notre engagement de réformer la façon dont nous envisageons ces choses-là était pour nous aussi très intéressant. C'est-à-dire qu'un divorce, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un péché, c'est effectivement un échec. On l'assume dans notre vie, on en prend les conséquences, etc. Mais on repart, on vit, on est en avant, on est appelé à faire quelque chose encore après. Et donc, cette chose, à l'âge où nous nous sommes mariés, il aurait été un peu déraisonnable de refaire à nouveau des enfants. Surtout que moi-même, j'en avais déjà 3, Martine en avait 4. Avec 7, c'était bien suffisant, d'autant que commencent à arriver les petits-enfants et nous en avons 8 aujourd'hui. Alors ensuite, l'arrivée à Montpellier, naturellement, on s'est réinstallé. On avait une activité économique de maison d'hôte, donc ça a facilité notre insertion, puisque nous n'étions pas de simples retraités. On a fait partie de pas mal d'associations, l'école de musique de Grabel, des clubs de vélo, etc. Et puis, avec notre vieux passé, ou jeune passé protestant, on est revenu tout de suite vers les instances locales. On a découvert des gens, des laïcs, des pasteurs, etc., qui nous ont très bien accueillis et dont on était très content de partager les tâches, de partager le ministère. Et ça, c'était aussi une chose importante que moi, j'avais vécu auparavant dans une paroisse du Creusot, où ce partage du ministère, quand il est effectif, quand il est vrai, quand il est plein, est quelque chose de tout à fait nourrissant pour chacun de ceux qui partagent, mais également pour l'assemblée qui est autour, pour la communauté qui vit autour. Voilà, donc c'est ça que je voulais retrouver un peu à Montpellier et que j'ai vécu dans mes premières années de Montpellier jusqu'à aujourd'hui.
Merci. Ensuite, qu'est-ce que vous avez envie peut-être un peu de nous dire dans vos engagements qui vous ont amené ensuite à Montpellier, peut-être vers le cimetière protestant?
Alors, vers le cimetière, non, rien ne m'y a amené, mais vers Montpellier et dans mes engagements, au cours de ma période avant la retraite, j'étais président d'un conseil presbytéral sur une paroisse en campagne très disséminée, la paroisse du Creusot, Monceau-les-Mines, Paray-le-Monial, Chauffailles, etc., l'équivalent d'un demi-département. Et sur cette paroisse où nous étions très peu de protestants disséminés, comme on dit, il n'y avait plus de pasteur, enfin il n'y a pas eu de pasteur pendant 4 ans. Donc on a fait une première année qui était intéressante. Là, à ce moment-là, je n'étais pas encore président du conseil presbytéral, mais on a commencé un peu à prendre les choses en main, à se mouiller et à non pas partager ce ministère, mais l'assumer, puisqu'il n'y avait personne pour le partager avec nous et que la région était très pauvre en poste. On a été assez peu aidé à ce niveau-là. L'année suivante, j'ai été élu malheureusement président du conseil presbytéral, donc j'ai assumé aussi. Et donc pendant 3 ans, plus encore une petite année après, j'ai assumé un peu les fonctions de pasteur remplaçant, de pasteur en intérim, voilà. Et donc ben là, j'ai vu effectivement ce que c'était qu'une paroisse, ce que c'était que l'animation culturelle, ce que c'était que les visites aux vieilles personnes très disséminées dans cette campagne, justement, ce que c'était que les actes qu'on pouvait faire, les enterrements, ce qui était très triste et me bouleversait à chaque fois, mais aussi des baptêmes. Et ça, c'était vraiment enthousiasmant. Et la vie d'une petite communauté pendant 4-5 ans. Qu'il fallait aider, qu'il fallait supporter, parce qu'au bout de 4 ans, elle commençait à se lasser des tâches et des tâches avant l'arrivée d'un pasteur. Puis un beau jour, voilà, on nous a envoyé un pasteur, et ce pasteur, je l'ai d'ailleurs rencontré pour la première fois en venant à Montpellier dans nos visites de repérage pour où s'installer. Donc j'ai rencontré ce pasteur qui était à l'époque encore en études et qui est venu ensuite s'installer au Creusot, et l'année d'après, nous sommes montés à Montpellier. Donc voilà déjà une vieille habitude, une vieille attention à tout ce qui fait une paroisse complète, mais qui n'avait pas de cimetière. Voilà.
Et en arrivant sur Montpellier, il y avait un cimetière protestant.
Voilà. Alors en arrivant sur Montpellier, on a repris pas mal d'engagements, mon épouse également. Et bon, moi, je ne voulais plus tellement m'impliquer dans l'animation même de la paroisse, dans un conseil de secteur ou un conseil pastoral, parce que j'en avais eu aussi ma dose, et une dose un peu difficile aussi à ce moment-là, puisqu'on était vraiment un peu seul. Et donc, bon, ben voilà, j'étais engagé dans la paroisse de la Margelle, à la Paillade, où, bon, en bon paroissien normal. Et puis, bon, je faisais quand même. Il m'intéressait de participer au culte, il m'intéressait de participer à pas mal de choses quand même. Et un jour, j'ai découvert ce cimetière protestant parce qu'on avait eu besoin, mon épouse et moi, de rapatrier les restes d'un bébé qu'elle avait eu et qui était mort à l'âge de 2 mois. Donc, ce cimetière protestant dont on avait beaucoup entendu parler, on n'y était jamais allé. On reportait sans arrêt. On nous disait, on voulait toujours le visiter. On ne l'avait jamais fait. Donc, on l'a fait à cette occasion-là. On a été charmé par le cadre. On a été charmé aussi par les paroles du gardien jardinier Benoît, qui vraiment nous a vanté ce cimetière, nous a vanté son métier là-bas, etc. Il faisait très beau, on y est revenu 2 fois, on a trouvé un petit coin et on a fait cette réinhumation dans ce petit coin de cimetière, dans un petit coin de terre. Et voilà, c'était quelque chose de très simple, de normal, de beau, qui se passait un jour de beau soleil sous les arbres et dans les fleurs. Voilà. Suite à cela, on a appris que la personne qui gérait un peu ce cimetière avec une équipe venait de décéder. C'était un ami qu'on connaissait aussi. Et je me suis dit immédiatement, tiens, c'est quelque chose que je ferais bien, qui me plairait, parce que côté intellectuel et côté manuel que j'avais eu dans mes fonctions auparavant, dans mes métiers, je les retrouvais là. C'est-à-dire à la fois l'animation d'une équipe dans un cimetière, l'accueil des familles, beaucoup de choses comme ça très intéressantes et qui font partie de mon engagement vraiment ici sur place, mais aussi des choses très matérielles, des travaux, des réfections de tombes, la restauration d'une chapelle, etc. Choses dans lesquelles je suis relativement heureux de travailler. Et en plus, avec une équipe, on est 6 bénévoles une équipe qui marche très bien, qui s'entend bien, et le cimetière protestant de Montpellier, avec nous et tel qu'on le vit, n'est pas triste du tout. Mm-hmm. Mais on pourra y revenir peut-être plus tard.
D'accord, donc vous avez un petit peu brossé votre panel d'activités en tant que président. Dans l'accueil des familles, qu'est-ce qui vous semble, parce que nous avons bien compris que vous étiez engagé dans votre foi, qu'il y avait du sens à votre démarche d'engagement, dans cet accompagnement des familles, dans cet accueil des familles, qu'est-ce qui pour vous est important ?
Alors, dans l'équipe d'animation de ce cimetière, dans les responsables, on a tous l'idée, la vocation et l'engagement qu'on n'est pas une équipe de gestion de cimetière, on n'est pas des conservateurs d'un cimetière avec uniquement les tâches administratives, qui cependant sont lourdes et qui doivent être faites de façon tout à fait impeccable pour l'administration. Mais nous avons un engagement justement d'accueil des familles. Toutes les familles qui viennent enterrer leurs morts au cimetière protestant ne sont pas toutes protestantes. Toutes ne sont pas de Montpellier. Il y a eu un brassage énorme au cours des deux derniers siècles. Et nous avons un rôle de présence et de témoignage. C'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement avec notre casquette de gardien de cimetière. On est là pour accueillir les gens avec simplicité, pour les décontracter un petit peu dans cette période qu'ils vivent, qui est difficile. Et le cadre tout à fait agréable, un petit peu vieillot de notre cimetière s'y prête très très bien. Donc on leur fait faire un petit tour de ce cimetière, pas forcément la totalité. On leur parle d'une tombe ou de l'autre et petit à petit les gens effectivement se décontractent. Bon, ce n'est pas le bon mot pour des gens qui sont dans le deuil, mais si vous voulez, acceptent de parler un peu d'autre chose, sourient, évoquent un souvenir et voilà, et comme ça le dialogue s'engage. Et également on leur dit la spécificité de ce cimetière qui accueille et qui accueillait dès le départ des protestants et donc quelle est notre façon en tant que protestant, de considérer la mort, de considérer la personne morte, le cadavre, qu'est-ce qu'on fait autour de ce corps ou qu'est-ce qu'on ne fait pas, et voilà comment ça se passe, quel est même le service religieux qu'on peut leur proposer, et c'est notre façon de tenir ce cimetière.
Je crois qu'il y a une chapelle aussi sur ce cimetière.
Alors, il y a une très vieille chapelle qui date de 1840 à peu près, qui était très, très délabrée. Elle est construite sans fondation, donc à même la terre. Elle est très humide. Il y avait beaucoup d'infiltration d'eau. Le toit était à refaire. Enfin, c'est une chapelle qui était tombée en désuétude et qui, voilà, les murs s'effritaient, etc. C'était très difficile de faire quelque chose dans cette chapelle. Donc, nous avons lancé une souscription auprès des concessionnaires du cimetière, une souscription à hauteur de 45 000 euros, et nous avons obtenu 46 000 et quelques centimes. Donc nous avons pu faire la totalité des travaux envisagés. Donc la réfection du toit, la mise hors d'eau, la lutte contre l'humidité, réfection complète de l'électricité, du chauffage, des peintures, et surtout réouverture d'un plafond qui cachait le tiers d'un vitrail, un vitrail qui est sans importance, mais un vitrail du 19e, bien classique, et il était intéressant de le retrouver dans sa totalité et de le restaurer. Et maintenant, nous avons un vitrail entier et une très belle lumière à l'intérieur de cette chapelle qui maintenant accueille donc les cultes et les services que nous faisons avec les familles des personnes inhumées, mais qui peut aussi servir à d'autres choses, parce que comme tout lieu de culte protestant, ce n'est pas un lieu sacré. Il n'est sacré que quand on l'utilise dans une certaine forme, mais autrement, il peut servir aussi pour des réunions ou pour la réunion des familles après justement l'inhumation, où ils veulent partager quelque chose entre eux. Voilà pour cette chapelle.
Merci beaucoup Jean-Marie pour cette première partie d'émission. Vous allez nous dire quelle est la pause musicale que vous avez choisie pour nous aujourd'hui.
Alors il s'agit d'un CD qui s'appelle Lambarena. Lambarena, ce n'est pas un festival, c'est une sorte d'action musicale qui se passe pas régulièrement tous les ans, mais assez souvent quand même, pendant l'été, où des jeunes musiciens ou choristes allemands des villes proches des villes de naissance d'Albert Schweitzer se rendent à Lambarena et organisent des sortes de de pot-pourri, de bœuf entre eux, entre musiciens classiques français, choristes français classiques, et les gens de Lambaréné là-bas, avec leurs instruments à eux, avec leur voix à eux, et sur des thèmes de Bach, puisque Albert Schweitzer jouait Bach à l'orgue. Donc voilà, on va avoir un chant qui est un mélange du Rootwohl de Bach dans la Passion de Saint-Jean, mais tel qu'il est interprété là-bas au cours de ces journées musicales d'été devant les baraques de l'hôpital d'Albert Schweitzer.
Merci. Amis auditeurs, auditrices de Vibration FM, nous retrouvons notre invité Jean-Marie Lebrun, avec qui nous parlions du cimetière protestant à Montpellier. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Jean-Marie, sur ce cimetière ? Est-ce qu'il n'y a que les protestants qui ont la possibilité d'y avoir une concession ?
Alors, ce cimetière, il a été inauguré en 1809, après le concordat avec Napoléon, qui rétablissait un peu notre état civil de protestant et reconnaissait la particularité de notre pratique religieuse. Auparavant, les protestants étaient interdits de cimetières. Les cimetières étaient réservés aux catholiques et les non-catholiques devaient être enterrés la nuit et en dehors des limites des cités, etc. Et dans les non-catholiques, on comptait les juifs, les tziganes, les bohémiens, comme on disait à l'époque, les gens de théâtre et les protestants. Voilà, tout ça, c'était considéré comme la troupe des non-catholiques. Et donc, on avait des cimetières privés qu'on retrouve encore dans certaines propriétés du Gard, de la Lozère, etc., et même autour de Montpellier. En 1804, on peut à nouveau avoir un cimetière, on achète un terrain, on le construit. En 1809, on a les premiers enterrements. Et ensuite, il est agrandi par trois fois jusque dans les années 1950 à peu près. Donc au départ, ce sont des tombes historiques, entre guillemets, avec des gens très connus, des anciens pasteurs, la tombe de Frédéric Basile, le peintre, beaucoup de familles aristocratiques ou un peu aisées d'Angleterre ou d'Allemagne qui venaient se faire soigner de la phtisie à l'époque à Montpellier, parce que ben, c'était un endroit reconnu intéressant pour ça. La Côte d'Azur n'avait pas encore la côte à l'époque, et donc ils venaient à Montpellier à la fois pour le climat et pour l'environnement médical déjà très prisé. Alors, la plupart, quand on se promène dans le cimetière, on voit qu'ils sont morts à 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Alors, ce n'est pas du tout parce que la faculté de médecine de Montpellier n'était pas au point. Non, c'est simplement qu'ils sont venus trop tard à Montpellier. Voilà, c'est tout. Donc après, nous avons eu beaucoup de protestants inhumés, de familles protestantes, mais petit à petit, les générations se suivant, certains protestants ont fait des mariages mixtes, donc mariés avec des catholiques ou des non-catholiques. Certaines familles se sont retrouvées hors du département, etc. Et donc, il y a eu petit à petit l'entrée de gens qui n'étaient pas protestants dans ce cimetière, qui ont été admis tout à fait normalement dans les tombes de leur famille, etc. Et actuellement, aujourd'hui, disons que c'est le cimetière protestant de Montpellier, mais ce n'est plus le cimetière des protestants. C'est un cimetière qui est ouvert à tout le monde. Il y a de nombreuses places, on peut accueillir tout le monde très généreusement dans les limites de notre règlement intérieur de cimetière. Voilà, donc c'est maintenant un cimetière ouvert et il est même tellement ouvert qu'on y inhume des protestants. Donc voyez notre ouverture.
En fonction de tout ce que vous nous avez dit sur votre engagement, sur votre choix de vie, vous disiez tout à l'heure que vous étiez heureux de cet engagement. Quelle est la diversité des actions qui vous rend heureux dans cet engagement, Jean-Marie ?
Alors, dans cet engagement, il y a déjà le fait de savoir qu'on assume un service d'église. Parce que voilà, ce n'est pas seulement un cimetière quelconque, c'est un service d'église qu'on assume dans ce cimetière. C'est un cimetière privé, donc qui n'a aucune subvention municipale. Les autres cimetières fonctionnent avec du personnel municipal, nous non. Donc nous sommes tous des bénévoles. Et manager cette équipe de 6 personnes bénévoles, tous différents mais très intéressants, c'est-à-dire certains sont vraiment la mémoire du cimetière, ils connaissent tous les morts par leur petit nom pratiquement, d'autres sont des gestionnaires, des comptables, etc. Mais cet ensemble fait qu'on a une équipe bien vivante et qui marche. Donc un service d'église agréable à faire entre nous déjà. Ensuite, un service d'église, comme j'en parlais tout à l'heure, face aux familles des personnes qui viennent ici, face aux visiteurs, face à ceux qui viennent demander s'il y a une concession possible ou pas, etc. Donc, c'est aussi notre engagement. Et puis quand même, beaucoup de travail matériel ou administratif. Il faut tenir des fichiers à jour. C'est très exigeant. Il faut retrouver parfois les ayants droit ou les héritiers de telle ou telle tombe qui commencent à être en déshérence. Il faut entretenir localement le cimetière. Donc ça, c'est notre gardien jardinier qui le fait. Et on essaye depuis maintenant plus d'une année. On a remis en route un inventaire complet pour voir quelles sont toutes les places disponibles. Alors les places qui peuvent être réutilisées pour des inhumations, mais aussi les places où on peut fleurir encore un peu plus ce cimetière. Il est déjà très fleuri, très beau, beaucoup de vieux arbres, mais on va essayer d'y mettre encore plus de couleurs. En plus, c'est un cimetière où il y a deux allées goudronnées, mais entre les tombes, tout est en herbe, donc des petites fleurs sauvages qui poussent, etc. On tond le gazon une fois de temps en temps, mais c'est un cimetière très bucolique, entre parenthèses. Donc c'est aussi très agréable d'y travailler de cette façon-là. Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous dire où il se situe ? On n'a pas encore donné l'adresse.
Alors, ce cimetière est en plein centre-ville. Il est au tout début de l'avenue de Palavas, au croisement avec le boulevard de Strasbourg, donc tout près de la station du tram Place Carnot. Voilà, donc en plein centre-ville, il est ouvert de 8h du matin jusqu'à 17h le soir, il est ouvert les week-ends et nous sommes à la disposition de tout le monde dans ce cimetière.
Alors, ce qui est intéressant, vous disiez que vous partiez à faire l'inventaire des tombes qui n'étaient plus utilisées. Donc, cela veut dire qu'il peut y avoir des places de disponibles si des familles souhaitaient venir réserver, visiter, etc.
Tout à fait. La plupart des gens pensent que comme c'est un vieux cimetière en plein centre de Montpellier, qu'il n'y a plus de place. Mais en fait, il y a beaucoup de places disponibles et cet inventaire permet de retrouver toutes ces places et de les proposer aux gens qui le veulent.
Est-ce que vous diriez que les liens que vous avez avec l'Église sont, parce que c'est un cimetière protestant, donc qui n'a pas de subvention, vous nous l'avez dit, donc vous êtes en lien avec l'Église protestante unie de Montpellier et agglomération, je pense.
Voilà, tout à fait. Notre budget spécial cimetière fait partie du budget global de l'Église. Donc nous ne sommes pas une entreprise commerciale, nous avons un budget et nous essayons de le tenir. Parfois nous avons peut-être un petit déficit, mais c'est rare maintenant. Nous avons de très légers excédents et ces excédents retournent dans le giron normal du budget global de l'Église de Montpellier.
D'accord. Quels sont les liens que vous avez avec les pompes funèbres ? Est-ce qu'ils ont tous les informations que ce cimetière existe ? Comment ça se passe ?
Oui, oui, toutes les entreprises de pompes funèbres de la région savent très bien que ça existe, connaissent notre cimetière. Certaines travaillent très souvent avec nous, les plus grosses notamment, d'autres un peu moins, mais tous connaissent la particularité de ce cimetière. Et aussi, malheureusement, le fait que certaines tombes ne sont pas accessibles aux mini-pelles. Parce que maintenant, dans les vrais cimetières, tout se passe avec la mini-pelle. Et donc, il y a encore quelques tombes qu'il faut creuser à la main. Les pompes funèbres connaissent ce problème et le font quand même volontiers.
D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est que pour tout le monde, ce qui est important, parce que la mort est quelque chose qui, en France, est encore un peu tabou. On a du mal à parler de la mort. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans ce cimetière, au niveau de l'équipe, au niveau de vous-même, il y a le souhait de pouvoir vraiment accueillir ces familles dans un instant particulier pour lequel il peut y avoir autant de la joie avec le décor, etc., que d'acceptation de la tristesse de l'instant.
Voilà, tout à fait. On est de toute façon devant une tristesse, devant une rupture, devant quelque chose comme ça, surtout quand c'est des personnes jeunes qui sont mortes un peu avant une mort envisagée comme naturelle en fin de vie longue. Et on arrive, non pas, on ne rigole pas, mais on arrive à un climat de paix. On arrive à apaiser, à un peu dédramatiser. Et puis le fait d'expliquer notre conception de la mort et des morts à nous protestants éveille aussi quelque chose chez les gens qui n'ont pas cette habitude ou qui ne la connaissent pas tellement. C'est-à-dire on centre notre action et aussi ce qui va se passer même au cours d'un service religieux, au cours de l'inhumation, c'est quelque chose qui est fait par les vivants, pour les vivants, pour entretenir ce lien, pour montrer qu'après la mort, la vie continue entre nous, dans la famille, dans le groupe, dans la communauté des gens qui sont inhumés, et que finalement, le mort, il est tranquille, on a même pas, nous, à prier pour lui, puisque voilà, c'est tout, on ne peut plus rien faire pour lui, il est, comme on dit, dans les mains de Dieu. Donc voilà, il se débrouille avec son Dieu, et ça se passe généralement très bien, puisque nous croyons vraiment en la grâce et la plénitude de la grâce, et nous nous occupons des vivants, donc nous enterrons vite fait le mort, etc., et nous nous occupons des vivants surtout. Et ça, c'est une nouvelle façon de voir que les gens apprennent à ce moment-là, et généralement, ça leur plaît. On a des discussions assez longues, parfois avec certaines familles, qui nous demandent justement cette spécificité de notre conception de la mort chez les protestants.
Voilà, vous venez donc de dire que nous avions ce qu'on appelle les cultes d'action de grâce, c'est-à-dire sans la présence du cercueil pour pouvoir effectivement montrer que ce qui est important, c'est le message, la parole, l'accompagnement, la rencontre avec les familles et tout ce qui se vit à ce moment-là.
Tout à fait, et même ça va plus loin, sans la présence du cercueil, oui. Donc, mais dans le temps, chez les vieux protestants à racines, etc., le cercueil était simplement posé sur deux tréteaux devant le temple, mais il n'entrait pas dans le temple parce qu'on n'avait pas à venir bénir ou entretenir ce corps, ce cadavre, et simplement, par contre, faire ce culte entre vivants.
Voilà, merci beaucoup Jean-Marie. Avec vous, nous avons abordé la question du cimetière protestant qui se trouve donc avenue de Palavas et vous êtes cordialement invité à aller le visiter. Et je remercie Stéphane qui était à la régie et je vous dis à samedi prochain. Au revoir.